Voilà, nous entrons dans le temps de l'Avent, un temps où on cherche à nous replacer, comme on l'a dit, dans l'attente. Bon, ça fait bien longtemps que l'Église attend le retour de Jésus, hein. Un peu moins de 2000 ans. Et ça fait peut-être un moment que vous, personnellement, vous attendez le retour de Jésus. Peut-être que vous êtes né dans une famille chrétienne, peut-être que vous êtes devenu un croyant en cours de route. Car qu'est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne, si ce n'est quelqu'un qui attend que Jésus revienne des cieux? Donc nous attendons. Cela ne veut pas dire que nous attendons bien. Cela ne veut pas dire que nous vivons bien cette attente. Alors ce matin, je veux essayer de raviver en nous ce désir d'attente de Jésus. Je vais vous lire deux textes en essayant de remettre vie un peu à cette flamme. Et je vais commencer par la lecture du jour. C'est quoi la lecture du jour ? C'est le texte qui est lu aussi chez certaines églises protestantes et le dimanche matin aussi à la messe catholique. Et le texte du jour ce matin, c'est Jérémie, chapitre 33, les versets 14 à 16. Le livre de Jérémie, c'est un prophète, Ancien Testament, au chapitre 33, les versets 14 à 16. Les jours viennent, déclare le Seigneur, où je réaliserai les promesses que j'ai faites au peuple d'Israël, au peuple de Juda. Quand ce moment sera venu, je ferai naître parmi les descendants de David un homme qui pratique la justice. Il agira dans le pays selon le droit et la justice. Alors, le royaume de Juda sera libéré et les gens de Jérusalem vivront enfin tranquilles. Et voici comment on appellera Jérusalem : le Seigneur est notre justice. Cette première lecture annonce la naissance d'un roi envoyé par Dieu. Un roi choisi qui viendra au monde, au sein du peuple juif, et dans ce peuple qui naîtra dans la tribu du roi David. Cette naissance sera l'accomplissement d'une promesse de Dieu faite au roi David. Et par elle, Dieu veut restaurer la justice dans le pays, à tel point que la capitale serait renommée pour célébrer la justice de Dieu. À l'époque où le prophète Jérémie a écrit, Jérusalem était encore une capitale. Je dis encore, parce que peu de temps après, elle fut conquise par l'empire de Babylone. Elle a été ravagée à deux reprises et le peuple a été déporté en partie au cœur du nouvel empire. Jérémie annonce des temps futurs, des temps d'espérance, des temps messianiques. Mais le peuple n'échappera pas au jugement. Aujourd'hui, bien des siècles plus tard, nous savons que la naissance qu'il avait prophétisée était celle de Jésus de Nazareth, le Messie, le choisi, l'élu de Dieu qui apporte la justice. Et c'est cette justice que je veux appuyer ce matin, pour nous encourager. Une justice, dit le texte, qui va libérer le peuple et lui apporter la paix. Justice, paix et liberté. Jérémie annonce ces trois choses comme étant reliées les unes aux autres. La justice engendre la paix et la liberté. En tout cas pour Jérémie, si le roi est juste, alors la paix et la liberté vont grandir dans le pays. Donc, si le roi est injuste, le peuple ne sera ni libre ni au repos. Toute ressemblance avec une situation que vous pourriez connaître est totalement fortuite. Alors, je veux vous partager un autre texte enrichissant pour développer cette idée de justice. Je lis un deuxième texte messianique qui vient d'un autre prophète, le prophète Ésaïe. Et lui aussi parle d'un temps de restauration, du moment où Dieu, après avoir laissé son peuple s'éloigner de lui, va le chercher. Et là, il lui parle encore d'un roi, de justice. Et vous allez écouter les transformations que ce roi de justice va apporter au pays, au peuple. Pour ma part, elles m'ont complètement sidéré. Nous lisons dans le prophète Ésaïe, au chapitre 31. Ésaïe, chapitre 31. Alors, on va lire les versets 4 à 6 de 31. Puis on va sauter au verset 32. Parce que les versets 4 à 6, c'est Dieu qui arrive, qui débarque et qui dit « Je vais te délivrer ». Et les versets 32, et à partir du verset 30, du chapitre 32, la suite, ça va être l'avènement de ce roi de justice. Donc je lis d'abord Dieu qui vient délivrer son peuple, les versets 4 à 6. « Voici ce que le Seigneur m'a déclaré. » C'est Ésaïe qui parle. « Quand le lion ou le lionceau gronde pour défendre sa proie contre une bande de bergers ameutés contre lui, il n'a pas peur de leurs cris. Il ne cède pas à leur tapage. Il en sera de même pour moi, le Seigneur de l'univers, quand je descendrai sur la montagne de Sion pour y faire la guerre. » Comme un oiseau qui étend ses ailes, le Seigneur de l'univers étendra sa protection sur Jérusalem. Du même coup, il la sauvera et lui épargnera la catastrophe. Israélites, vous avez été jusqu'au bout de la désertion à l'égard du Seigneur. Revenez donc à lui. Ce jour-là, chacun d'entre vous rejettera les idoles d'or ou d'argent qu'il a fabriquées de ses mains coupables. Toute petite pause. Il n'y a pas un problème. Normalement, c'est le berger qui gagne contre le lion. Vous êtes d'accord? David, le berger qui gagne contre le lion. D'accord? L'Éternel est mon berger. Jésus qui dit « Je suis le bon berger ». Qu'est-ce qu'il fait Dieu là? Le lion. Et il gagne contre qui? Contre les bergers. C'est bizarre, non? Et alors, dans le Proche-Orient ancien, le berger, c'est la figure de qui? De quel rôle? Quelqu'un? Non. Non. Le roi. Le roi. Donc, si Dieu arrive comme un lion pour défaire une bande de bergers ameutés, il vient défaire des rois. Gardez ça à l'esprit, c'est très intriguant. On va lire la suite du coup. Donc il va défaire des rois et qu'est-ce qu'il va mettre en place? Son roi. On passe au verset, au chapitre 32. Il y aura un roi qui régnera selon les principes de la justice et des princes qui exerceront le pouvoir conformément au droit. Chacun d'eux sera bienfaisant, comme un abri contre le vent, un refuge contre l'orage, un ruisseau dans une terre aride, ou l'ombre d'un gros rocher dans un pays torride. Ceux qui devraient voir n'auront plus les yeux aveuglés. Ceux qui devraient entendre auront les oreilles grandes ouvertes. Les gens irréfléchis se mettront à comprendre et ceux qui bégayent s'exprimeront vite et clairement. On ne dira plus des insensés qu'ils sont nobles. On ne dira plus de ceux qui trompent que ce sont des personnes de qualité. Les insensés ne parlent que pour dire des idioties. Ils réfléchissent au mal qu'ils vont faire. Ils agissent de façon malfaisante. Ils tiennent des propos scandaleux contre le Seigneur. Ils laissent l'affamé manquer du nécessaire et refusent de donner à boire à celui qui meurt de soif. Quant à ceux qui trompent, les autres, ils auront des armes cruelles. Ils préparent leurs mauvais coups pour nuire aux pauvres en affirmant ce qui est faux alors que le malheureux réclame seulement leurs droits. Mais la personne dont le cœur est noble n'a que des nobles intentions et elle n'intervient que pour des nobles causes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'a complètement bluffé ce texte. Je vous détaille. Dieu annonce par son prophète qu'un roi va venir régner pour la justice. Alors, il y aura des princes, ça veut dire des ministres, des gouvernants, ceux qui vont exercer le pouvoir du roi dans le pays, qui vont devenir des personnes fiables. Ce que le prophète exprime par une série d'images, comme un abri contre le vent, comme un refuge contre l'orage, un ruisseau dans le désert, l'ombre d'un rocher dans un pays où le soleil tape dur. Ils seront efficaces, concrètement efficaces. Mais ce n'est pas ça qui m'a surpris, parce que ce genre de prophétie, je l'ai déjà bien vu ailleurs dans la Bible. La suite est plus étonnante. Il m'apparaît que le peuple lui-même va être transformé par ce règne de justice. En effet, ceux qui sont censés voir, ceux qui ne sont pas aveugles, vont enfin voir clairement. Ils auraient dû voir, déjà, bien, mais ils étaient comme aveuglés par quelque chose, et ils voient. Ceux qui avaient des oreilles qui fonctionnaient correctement et qui auraient dû bien entendre, étaient également comme assourdis par quelque chose, incapables d'avoir une écoute attentive, et maintenant ils vont avoir une écoute attentive. Ceux qui sont insensés, alors plus précisément, c'est ceux qui ont une pensée précipitée, des jugements à l'emporte-pièce, on disait hein, aujourd'hui, se mettront à comprendre. Et ceux qui ont un langage mal assuré, qui bégayent, qui hésitent, qui ne savent pas s'exprimer, vont se mettre à parler avec assurance. Ok ? Je reformule. Ce peuple n'arrivait pas à voir correctement, à entendre correctement, à comprendre correctement et à parler correctement. Le peuple vivait dans une situation où leur société, leur culture appelait nobles des gens sans le moindre bon sens et appelait bons des personnes manipulatrices et mauvaises. C'est ce qui nous confirme la suite du texte qui va développer qu'est-ce que c'est qu'un insensé et qu'est-ce que c'est qu'un fourbe. Je ne reviens pas dessus. Mais je pense, voilà d'où vient la stupeur, l'incompréhension, le doute, le mutisme du peuple. Il voit bien, mais ce qu'il voit de stupide, on l'appelle sagesse. Ce qu'il voit de fourbe, on l'appelle bon. Alors il doute. Il doute de ce qu'il voit. Il doute de ce qu'il entend. Et il doute de ce qu'il pense. Alors, il se tait. Encore une fois, toute ressemblance avec une situation actuelle serait complètement hasardeuse, bien sûr, puisque ce texte a plus de 2000 ans, n'est-ce pas ? Et il se rapporte à la situation du peuple d'Israël de l'époque. Le pouvoir corrompu de l'époque du prophète Ésaïe avait conduit le peuple à perdre toute capacité, à voir clairement tout ce qui se passait autour de lui, à le comprendre au point où il n'osait plus s'exprimer. Mais la venue du roi de justice, qui a établi des princes pour exercer son droit, a changé la situation et a libéré le peuple de cette chape de plomb, peut-être en zinc, mais plomb, on va dire, mentale qui s'exerçait sur lui. Il est libéré d'une sorte de prison sans barreaux qui le rendait impuissant et docile, et surtout tenu à distance du vrai Dieu, donc du vrai roi de ce peuple. Et donc c'est comme ça qu'il faut comprendre pourquoi cette fois-ci Dieu se présente non pas comme un berger qui vient chasser les bêtes sauvages au loin pour que son peuple, ou un vigneron qui protège sa vigne, d'accord ? Non, cette fois-ci c'est le lion qui vient bouffer les bergers. Étonnant. Génial. Comment un peuple qui ne sait plus regarder, qui ne sait plus écouter, qui ne sait plus réfléchir, qui ne sait plus s'exprimer, peut-il se libérer ? Israël était conduit par des rois rebelles à Dieu. Comment le peuple pouvait-il rester fidèle à Dieu ? Difficile, voire impossible collectivement, peut-être individuellement ici ou là, peut-être par petits paquets des résistants, collectivement. Collectivement, il lui faut un libérateur qui viendrait apporter ce dont le peuple a vraiment besoin. Peut-être est-ce pour cela qu'en politique, il y a comme une attente, un mythe que nous vivons tous de la personne providentielle qui va apporter le changement attendu par tous. L'ancienneté de ce texte d'Ésaïe nous montre que cet enjeu ne date pas d'hier. Toutes les nations du monde sont passées par là et y passent encore et y passeront encore. Et nous qui vivons en France au XXIe siècle, attendons-nous aussi cette libération, un homme providentiel ou une femme providentielle, un roi juste, des princes qui sont des abris, des ruisseaux d'eau fraîche, des chefs qui assurent, qui rassurent, sous l'autorité desquels nous avons envie d'être. Oui, évidemment que oui. Et je dirais, nous connaissons une époque où l'autorité, particulièrement, est une réalité à reconstruire, à refondre sur des bases saines, saintes et vraies. Et nous souffrons en attendant que celle-ci émerge à nouveau, car l'être humain a besoin d'autorité pour grandir, se développer, vivre. Et nous soupirons en nous-mêmes, et nous soupirons les uns avec les autres après de vrais chefs, de vrais ministres, des vrais dirigeants, des vrais élus, tandis qu'une part de nous se désillusionne et se désespère que de telles personnes puissent jamais exister. En un sens, la Bible va achever cette désillusion en disant « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle qui vient de Dieu ». Il ne s'agit pas de retirer sa confiance à toute personne humaine, non. Gardez vos amis, vos familles. Mais nous ne devons pas attendre de libération de leur part. Je reformule, pardon, non, ça c'est la page d'avant. Cette désillusion à laquelle nous appelle la Bible s'accompagne cependant d'une espérance et d'une solution. Espérance et solution. Espérance, car le roi que nous rencontrons dans ses prophéties, le porteur de justice, de liberté et de paix, nous a déjà été présenté. Nous l'appelons Jésus, le Christ. Ça veut dire Jésus, l'élu de Dieu. C'est sa naissance que nous célébrons à Noël. Ce Jésus, nous pouvons découvrir sa vie en lisant les évangiles. Et sa vie nous révèle une personne libre de toute influence, de toute tentation. Il est incorruptible. Il marche dans la justice. Il veut la paix. Il aime son prochain. Il parle pour éclairer, pour dire la vérité de façon lumineuse. Il libère les captifs. Il relève ceux qui sont abattus. Il pardonne les coupables qui se repentent. Ce Jésus montre en acte et en parole qu'il est le roi juste promis par Dieu. Aujourd'hui, ce Jésus a disparu de la vue des mortels que nous sommes, car il a été élevé dans les cieux pour y recevoir le pouvoir sur le monde, de la main droite de Dieu lui-même. Il veut et il va régner sur tout ce que nous connaissons, tout ce monde qui nous entoure. Mais son règne de justice ne pourra pas s'établir sans d'abord qu'il rende la justice à tout le monde. Il se prépare donc un jugement infaillible, un jugement implacable, un jugement certain. Aucun d'entre nous ne peut espérer passer à l'as. Même nos plus adroits élus, puissants de ce monde, n'y échapperont pas. Aucun de nous ne pourra être trouvé non coupable. Alors Dieu a fait deux choses. Premièrement, il a ouvert une porte de salut pour être pardonné de nos fautes. Et deuxièmement, il a retardé le jour du jugement pour que le plus grand nombre soit sauvé. Premièrement, donc, je disais, ce Jésus, le roi choisi, a accompli une œuvre, un rituel sacré, une obéissance à Dieu telle que il a accepté d'être condamné, lui, à la séparation d'avec Dieu, à l'abandon d'avec Dieu. Il a comme été banni de ce monde pour que mes péchés, pour que vos péchés soient déjà réellement condamnés par un tribunal céleste. De sorte que, au jour du grand jugement, j'arrive en étant déjà pardonné, justifié. Et je vais pouvoir vivre le règne de justice que ce Jésus va établir après ce tribunal céleste. Deuxièmement, aujourd'hui, si nous ne pouvons pas rêver d'avoir des chefs aussi bons que Jésus-Christ dans notre pays, sur notre peuple, des responsables aussi inspirés que lui dans nos églises locales. Vous pouvez maintenant choisir ce Jésus comme roi de votre vie, de votre cœur. C'est pour ça que nous les chrétiens l'appelons Seigneur. C'est pour ça que Thomas, l'apôtre qui voulait voir Jésus ressuscité avant de croire, c'est de crier « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus veut régner sur votre vie. Il veut être ce chef formidable, bon, patient, miséricordieux, juste, sage, généreux, qui se sacrifie pour vous. Un chef sous l'autorité duquel il fait bon vivre. Jésus veut régner sur votre vie. Il veut être ce chef formidable. C'est une prière simple. Jésus, je te veux comme roi sur ma vie. Amen. Et si déjà Jésus est votre roi, on peut faire écho avec ce texte d'Ésaïe et aspirer tout à nouveau à vivre cette libération du cœur. Je veux que tu ouvres mes yeux pour voir vraiment ce qui me fait face, Seigneur. Je veux que tu ouvres mes oreilles, qu'elles soient attentives à ce qui m'est dit. Tu calmes mon cœur et mon intelligence pour la lenteur, pour réfléchir, pour comprendre, pour goûter la sagesse. Garde-moi des jugements hâtifs et que ma langue soit affermie pour parler simple, vrai juste. Noël vient et revient chaque année célébrer la venue du vrai roi que nous accueillons dans nos vies dès maintenant. Et mais vrai roi qui vient bientôt apporter son règne de justice et de paix éternelle. Nous tous qui l'avons déjà accueilli, puissions-nous être renouvelés pour l'annoncer avec simplicité et amour. Vous qui le découvrez ce matin, puissiez-vous le rencontrer intimement, dans vos pensées et votre cœur, comme nous l'avons déjà rencontré. Et comme nous nous sommes laissés aimer par lui. Amen.